Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture.
C'était en 1971, dans l'émission de Patrice Galbaud, Bonne Nouvelle Grand Comédien, l'interprète de Naïs et de Manon Dessources, qui depuis 1945 ne s'appelait plus Jacqueline Bouvier, mais Jacqueline Pagnol, lisait une nouvelle de son mari, Les Secrets de Dieu. C'était un conte qui n'avait rien de provençal et dont l'action se déroulait en Basse-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Dans la présentation qu'il donnait avant la lecture de cette nouvelle par son épouse, Marcel Pagnol affirmait qu'il tenait cette histoire de son grand-père, tailleur de pierre, et qu'elle était une histoire tout à fait authentique, ce que nous devons croire sur parole, puisque l'on sait que les bons raconteurs d'histoire disent toujours la vérité. Une histoire édifiante, en tout cas, après la lecture de laquelle Pagnol livrait aux auditeurs l'enseignement politico-philosophique qu'il y avait à en recevoir. C'était le 18 août 1971 sur France Culture.
Les secrets de Dieu. C'est une histoire que mon grand-père me raconta il y a plus de 50 ans. Il l'avait entendue dans sa jeunesse, pendant son tour de France. C'est la mère des compagnons qui en avait fait le récit un soir à la veillée. Elle l'avait elle-même apprise de sa grand-mère, qui la tenait d'une très vieille demoiselle qu'elle avait servie au début du siècle. Voilà bien grand nombre d'intermédiaires. Mais l'histoire est si simple qu'elle n'a pas pu être déformée, du moins pour l'essentiel. Quelques années avant la Révolution, il y avait en Basse-Bretagne, sur une éminence, un très joli château Louis XIII, au milieu d'un parc de vieux chênes au bout d'une allée de tilleuls. Ce parc était cerné par les maisons d'un petit bourg, ou plutôt d'un gros village, entouré lui-même de fermes, de champs et de prairies, au centre d'une vaste lande déserte.
Le château était habité par une très riche comtesse dont le mari, qui avait été un vaillant officier, était mort fort bêtement de la variole alors qu'il avait la faveur du roi et qu'un brillant avenir lui était promis. Madame la comtesse était une grande et forte femme qui avait une voix d'homme et montait ses chevaux comme un écuyer. Parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant, elle s'occupait maternellement de ceux de ses fermiers et tout le monde l'adorait. Dans son personnel domestique, elle avait deux chambrières qui s'aimaient comme deux sœurs. Nathalie n'était pas très belle, mais fraîche et dodue, tandis que Louison, une brune aux yeux verts, brillait de tout l'éclat de ses 20 ans. Elles vivaient toutes les deux parfaitement heureuses lorsqu'un matin d'avril, Madame la Comtesse ramena de la ville un nouveau jardinier qui était jeune et beau. Tout naturellement, il tomba amoureux de Louison. Elle répondit bientôt à ses avances et il vint la rejoindre chaque nuit dans sa chambre en profitant d'un gros chêne dont une épaisse branche s'allongeait jusqu'à la fenêtre de sa belle. Naturellement, elle s'aperçut un jour qu'elle allait avoir un enfant. Par malheur, dans la nuit du samedi, jour de Saturne, comme l'amoureux allait rendre visite à sa fiancée, un coup de vent soufflé par le diable le jeta au bas de la branche et le gentil garçon tomba dans les bras de la mort qui le guettait depuis le premier jour. La pauvrette fut désespérée, tant par la perte de son amour que par la naissance prochaine d'un enfant sans père. C'était à cette époque un irréparable malheur. Elle savait que Madame la Comtesse, malgré sa bonté, serait forcée de la renvoyer dans sa famille, que son père la cacherait dans un grenier ou une cave, et que sa mère en mourrait de honte et de chagrin. Vers le terme de sa grossesse, elle ne put quitter son lit. Par bonheur, Madame la Comtesse était allée passer quelques jours chez Monsieur le Chevalier des Ombrés, dont l'épouse était son amie depuis le couvent. C'est à la veille de son retour qu'au milieu de la nuit, la pauvre Louison mit au monde une petite fille, puis s'endormit et mourut, pendant que Nathalie, désespérée, constatait que l'enfant était contrefaite. Une épaule remontait jusqu'à l'oreille, ses jambes étaient inégales et ses doigts trop courts était recourbée en forme de griffe. Lorsque Madame la Comtesse arriva, on ne put lui cacher ce double malheur. Elle fouetta violemment ses bottes et envoya chercher le docteur du village, qui était un homme encore jeune, mais fort savant, car il avait étudié à Paris. Il examina assez longuement le bébé et dit « Le cœur est bon, mais sachez que ces malformations ne peuvent que s'accentuer. Elle ne sera probablement pas capable de marcher. » Ses mains seront très difficilement utilisables. Quant à son esprit, je crains bien qu'il ne soit aussi gravement touché que son corps. Que la volonté de Dieu soit faite, dit la comtesse. Il a puni cruellement ses parents à cause de leur amour coupable, et s'il m'a confié cet enfant difforme, ça n'est certainement pas sans raison. Je suis persuadée qu'il a voulu m'offrir l'occasion de racheter mes fautes et mes péchés. Je veux donc être la marraine de l'orpheline. Elle s'appellera Élisabeth comme moi. Allez tout de suite quérir la plus belle nourrice du pays. Dites-lui qu'elle aura des gages triples, qu'elle mangera à ma table, qu'elle sera servie par Nathalie et qu'elle gagnera en même temps que moi son paradis. La petite Babette ne mourut pas, et la généreuse femme veilla sur son enfance avec la tendresse et la patience d'une véritable mère. La comtesse installa le docteur au château. Comme l'homme de l'art l'avait tristement prévu, elle ne pouvait se déplacer qu'en faisant pivoter son torse pour lancer en avant une jambe et franchir ainsi un très petit pas, parce que ses genoux semblaient attachés l'un à l'autre et ses mains inachevées pouvait à peine saisir sa nourriture. Pourtant, à 15 ans, son visage tourné définitivement vers son épaule droite était d'une étrange beauté. Sous une épaisse chevelure de soie blonde, de très grands yeux noirs, un teint très blanc, des traits d'une harmonie parfaite, des dents égales et brillantes. Mais son esprit, comme son corps, était infirme. Elle ne put jamais parler le langage des hommes. Non pas qu'elle fût sourde. Au contraire, elle avait l'ouïe des bêtes sauvages. Bien avant tout le monde, elle entendait le galop lointain du cheval de Madame la Comtesse et le chant des oiseaux la ravissait. On s'aperçut bientôt qu'elle les comprenait et qu'elle savait leur répondre en les imitant. Assise devant la fenêtre ouverte, elle parlait pendant des heures aux pinsons et aux merles du parc. Le soir, un vieux corbeau qui habitait au sommet du chêne fatal, descendait dans les basses branches et il tenait des conversations qui avaient parfois le ton d'amicales confidences, parfois celui d'une querelle volubile. Souvent, sur une réponse de l'oiseau, elle éclatait de rire, tandis que Nathalie faisait en hâte de grands signes de croix et murmurait des exorcismes. On sait bien que le corbeau, c'est l'oiseau du diable et qu'il ne parle qu'aux sorcières. D'autre part, il y avait un gros chat noir qui disparaissait dans la journée, mais revenait chaque soir dormir près d'elle. Chose étrange, il dormait étendu sur le dos et les bras croisés comme un homme. Timidement, Nathalie confia ses craintes à Madame la Comtesse, qui ne fit qu'en rire. Cependant, elle en parla à Monsieur le curé. Il répondit « Il n'y a qu'à la voir à la messe. Elle ne comprend peut-être pas, mais elle sait. Et je vous dis en vérité qu'elle est plus près de Dieu que nous. » Elle avait 16 ans lorsque d'étranges nouvelles arrivèrent de Paris par Monsieur le Chevalier des Ombrés. Le roi Louis XVI avait fort imprudemment accepté la réunion des États généraux afin d'entendre les avis de tout son peuple et surtout les plaintes des pauvres qui étaient son grand souci. Monsieur des Ombrés avait été l'un des représentants de la noblesse. Il vint annoncer que toute l'affaire, malgré la générosité des seigneurs qui avaient renoncé à leurs privilèges, prenait une fort mauvaise tournure. Le petit peuple, excité par d'abominables canailles, avait attaqué la prison royale et assassiné le gouverneur qui avait eu la faiblesse de leur ouvrir les portes. Le chevalier n'était venu que pour apporter ses graves nouvelles et parler à ses propres paysans. Il repartit pour Paris le lendemain. Le petit bourg était si bien perdu dans la lande que les nouvelles de la Révolution n'y parvenaient qu'avec de très longs retards, et elles étaient si étranges que la comtesse refusait d'y croire et se gardait bien d'en faire part à ses paysans, qui d'ailleurs n'avaient aucune envie de se révolter. La vie continuait donc presque normale lorsque le chevalier des Ombrés reparut, grandement amaigri et les cheveux blancs. Il venait de passer 2 années dans les prisons républicaines avant de réussir à s'en évader. Il annonça que le roi, jugé, venait d'être décapité à la machine. Heureusement, les provinces commençaient à se révolter, des troupes royalistes s'assemblaient en Vendée, elles allaient marcher sur Paris sous le commandement de Monsieur de Charette. Il fallait donc donner des armes aux paysans les plus jeunes et courir à ce rendez-vous.
Monsieur Prétot avait promis d'être fidèle à son pays,
mais il y a manqué, le faisons plus tardier.
Dans son carmagnole, vive le son, vive le son, dans son carmagnole, vive le son du canon.
Madame la Comtesse envoya aussitôt chercher son notaire et resta avec lui enfermée dans son cabinet toute une matinée. Puis, ses beaux cheveux convenablement raccourcis, et vêtue d'un uniforme de feu son mari, elle monta son meilleur cheval. Un poignard à la ceinture et 2 gros pistolets dans ses fontes, elle partit à la tête d'une 20aine d'hommes que suivaient 6 charrettes de vivres. On ne devait plus les revoir. La comtesse avait confié au docteur la garde du château, des femmes, des enfants et des vieillards du bourg. Il s'y dévoua corps et âme en rassurant les uns et les autres et en organisant une distribution équitable de la nourriture. Et il passait des heures entières sur la plus haute terrasse du château, scrutant l'horizon circulaire. C'est ainsi qu'un jour, au coucher du soleil, il vit surgir une troupe que précédait un cavalier et que suivaient quelques chariots. Il allait descendre pour annoncer la grande nouvelle, lorsqu'un doute le saisit. Cette colonne lui parut un peu trop longue. C'était un bataillon de bleus qui fit son entrée dans le bourg, le mousquet à l'épaule, en chantant des hymnes révolutionnaires. Le capitaine déclara qu'il était chargé par le gouvernement de la République de vérifier le patriotisme des citoyens et de leur imposer la nouvelle devise « Liberté, égalité, fraternité ». En conséquence, il s'installa au château avec une douzaine de sergents et un certain nombre d'éclopés et de malades. Il ordonna de soigner ses héros, victimes de leur dévouement à la République. Le docteur maîtrisa aussitôt ce dangereux imbécile en proclamant sa haine des nobles. Il lui fut ainsi permis de conserver auprès de lui la petite infirme, dont il avait la garde, et la fraîche Nathalie, que le capitaine préserva de plusieurs viols consécutifs, en la réservant à son usage. Que le docteur soignait les héros, les autres républicains pillaient le village et troussaient les filles. En 15 jours, ils vidèrent les caves, les greniers, les poulaillers, les bergeries, et ils pendirent sur la grande place 3 vieux paysans qui avaient prétendu défendre leurs biens. Le village vivait donc dans la terreur et la misère. Mais un soir, l'un des soldats malades que le docteur soignait en vain comprit qu'il allait mourir. Touché par le dévouement de Nathalie, il lui avoua la vérité. Toute la troupe n'était composée que de déserteurs et de bandits de grand chemin qui avaient déjà pillé plusieurs villages et qui redoutaient une rencontre avec les soldats de la République. Le docteur, informé, fit venir 2 petits paysans de 12 ans, braconniers émérites, et les chargea un message pour son ami, le chirurgien de la ville voisine. Les courageux enfants, qui savaient tous les sentiers, réussirent à sortir du bourg sans être vus par les sentinelles et marchèrent toute la nuit. C'est ainsi que le surlendemain, à l'aube, le village était cerné par un fort détachement de troupes de la République. Quelques-uns des pillards essayèrent de se défendre. Ils furent abattus sur place. Un certain nombre purent fuir. Les autres, jugés en quelques minutes, furent pendus aux arbres du parc. Enfin, le docteur, qui avait mis un bonnet rouge et chantait la Carmagnole avec une véritable férocité, fut nommé commissaire de la République par le commandant des libérateurs, avec plein pouvoir sur le bourg, et les troupes se retirèrent sous les bénédictions des derniers habitants. Alors, on coupa les cordes des pendus, à la grande indignation des corbeaux. Les vieux paysans sortirent des cachettes les vivres qu'ils avaient pu soustraire aux pillards. On replanta les potagers et la vie reprit avec le vague espoir d'un retour des absents. Un matin, le docteur vit arriver dans un cabriolet le notaire de la comtesse. Il apportait de terribles nouvelles. Madame la comtesse avait été décapitée à la machine, comme le roi, le même jour que monsieur le chevalier des Ombrés. Il remit donc au docteur le testament qu'elle lui avait dicté la veille de son départ. Elle léguait à Babette toute sa fortune, dont la gérance était confiée au bon docteur et reviendrait ensuite à Nathalie, au cas où il quitterait ce triste monde avant elle, ce qui était logique à prévoir. Cependant, la pauvre Babette, qui avait traversé sans dommage une épreuve à laquelle elle n'avait rien compris, avait pourtant changé de caractère. Elle n'allait plus s'asseoir devant la fenêtre pour parler aux oiseaux, et le vieux corbeau en était réduit à des monologues. Elle ne voulait plus sortir dans le parc. Elle restait des heures entières blottie dans un fauteuil, inquiète et tressaillant au moindre bruit. Nathalie elle-même ne pouvait plus la toucher pour faire sa toilette, et elle dormait tout habillée, avec le vieux chat dans ses bras. Ce qui rassurait le docteur, c'est qu'elle avait gardé un appétit remarquable et qu'elle mangeait à toute heure du jour et de la nuit. Un soir, Nathalie finit par dire « Moi, je me demande si elle n'est pas enceinte. »« C'est impossible, » dit le docteur. « Elle n'a pas eu de puberté et je suis persuadée qu'elle n'en aura jamais. »« Et puis, quel est le criminel qui aurait pu violenter cette petite créature ?»« Ce n'est pas imaginable. »« Dans cette bande de cochons, » dit Nathalie, « il y a des brutes capables de n'importe quoi. » Quelques jours plus tard, le docteur inquiet voulut l'examiner. Il réussit par surprise à poser la main sur son ventre, mais elle le repoussa furieusement d'un coup de griffe. « Le misérable qui l'a violé a commis un assassinat, dit-il, car l'enfant ne pourra jamais naître. Les os du bassin sont soudés et la pauvre petite mourra certainement en couche. Et si par miracle elle ne meurt pas, elle nous fera un petit monstre qui sans doute ne vivra pas 8 jours. » Lorsque les douleurs de l'enfantement commencèrent, le docteur alla chercher un de ses amis médecins réputés de la ville voisine. Il la trouvèrent étendue sur son lit, gémissante, et elle n'eut pas la force de résister à leur examen. « Il n'y a qu'une solution, dit le savant confrère, c'est de tenter l'opération de Jules César. Comme les chirurgiens allaient sortir pour aider à transporter la pauvrette, la porte s'ouvrit toute grande sous la poussée d'un pied. Nathalie leur présentait comme une offrande le petit garçon qui venait de naître. Il était beau. Babette put allaiter son enfant. Mais pendant les premiers mois, elle ne permit à personne d'y toucher. Quand une main s'avançait doucement vers lui, elle grondait comme une chatte, la lèvre retroussée sur ses dents. Cependant, elle comprit peu à peu qu'on ne lui voulait que du bien. Elle permit à Nathalie de le laver et de l'habiller, mais elle ne consentit jamais à lâcher la main du bébé. Elle lui parlait longuement dans son étrange langage d'oiseau, et pour l'endormir, elle gazouillait de jolies petites musiques. En grandissant, le bébé devint un petit garçon d'une beauté parfaite et d'une remarquable précocité. Il parla d'abord le langage de sa mère, puis celui de Nathalie. À 5 ans, il apprit à lire en quelques semaines. Un peu plus tard, le docteur reprit les manuels de sa jeunesse pour l'initier aux sciences naturelles, aux mathématiques et aux dessins. Émerveillé par son intelligence et sa surprenante mémoire, monsieur le curé lui enseigna le latin. Ses progrès furent si rapides que le saint homme disait parfois « Quand je pense qu'il est le fils de la plus misérable des créatures et d'un bandit de grand chemin, j'en reste vraiment confondu et je constate chaque jour que les voies de Dieu sont impénétrables. » Lorsqu'il eut 14 ans, ses deux professeurs, arrivés au bout de leur science, décidèrent qu'il fallait le conduire à Paris pour lui donner des maîtres dignes de lui. La vieille demoiselle, la première narratrice, qui était à mon avis Nathalie elle-même, affirma qu'au sortir des écoles, le jeune homme devint très vite célèbre. Dans quel domaine et sous quel nom, elle refusa de le dire, car elle avait juré sur les livres saints de ne jamais révéler son secret par crainte de nuire à sa descendance. Fut-il un savant, un médecin, un peintre, un musicien, un écrivain, un grand architecte? Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais d'après la vieille demoiselle, il était, déjà à l'heure où elle parlait, un homme véritablement illustre et connu dans toute l'Europe comme une des gloires de la France. Tant que sa mère vécut, il ne se maria pas, car elle en fut morte de jalousie. Il resta jusqu'au bout près d'elle, sans jamais recevoir personne chez lui. Et tout le monde pensait qu'il avait une maîtresse despotique et si belle qu'il n'osait pas la montrer. Elle ne vécut qu'une dizaine d'années, car ses infirmités ne lui permirent pas d'atteindre la vieillesse. Elle déclina doucement et sans le savoir. Lorsque ses jambes furent paralysées, son fils la porta dans ses bras comme un enfant. Il l'installait dans un fauteuil, sous le grand saule pleureur du jardin, dont la ployante verdure les cachait à tous les yeux. À côté d'elle, il écrivait sur une longue table de pierre. Elle lui parlait de temps à autre dans leur langage mystérieux, et il lui répondait. Alors, les merles et les pinsons du voisinage venaient se poser dans le saule et de plongeantes hirondelles s'entrecroisaient au-dessus d'eux. De temps à autre, ils se levaient pour baiser les mains mutilées. C'est un soir, comme il la rapportait à la maison, la tête appuyée sur l'épaule de son fils, qu'elle gazouilla dans son oreille ses derniers mots de tendresse et de bonheur. Il me semble que ce fut là la fin de la plus belle histoire d'amour du monde.
Un soir d'hiver à la campagne, devant de flamboyantes bûches, ce récit me revint à l'esprit. Et je pensais, tout à coup, à Sparte, à ses lois, à ses mœurs, à son idéal. Ce fut une ville d'héroïques guerriers et de farouches patriotes, soucieux avant tout, comme Hitler, de la pureté et de la beauté de leur race. Lorsqu'un enfant naissait, une commission d'experts venait donc l'examiner dans la chambre même de l'accoucher. Les filles étaient estimées selon leur taille et leur poids, comme des juments poulinières. Les garçons devaient paraître capables de porter un jour le bouclier, le casque de bronze et la lourde épée de fer. Quant aux enfants réformés par ce conseil de révision, les vieux sages les emportaient sous le bras et allaient les jeter dans un gouffre voisin qui s'appelait le Barâtre. Finalement, cette race si belle et si soigneusement épurée que nous a-t-elle laissée. Des noms de rois, auteurs de lois aussi sévères que règlements pénitentiaires, des noms de généraux dont les armées ne dépassèrent jamais l'effectif d'un régiment, des noms de batailles dont la plus célèbre est le glorieux désastre des Thermopyles et les murs effondrés d'une petite ville. Ces pierres éparses sous des ronces ne cachaient pas une Vénus, un discobole, une victoire ailée, mais un bouclier verdi, des casques fendus, des glaives amincis par la rouille du temps. Au centre d'un paysage quelconque, ces ruines anonymes ne sont pas dominées par un lumineux Parthénon, haut dans le ciel sur une acropole, mais accroupies dans l'ombre au bord d'un trou. Ces hommes furent pourtant des Grecs de la grande époque, à deux pas d'Athènes, mère de la poésie, de l'intelligence et des arts. Pourquoi leur héritage est-il si misérable? C'est parce qu'ils ont mécanisé sur leurs champs de manœuvre et sacrifié sur des champs de bataille leurs poètes, leurs philosophes, leurs peintres, leurs architectes, leurs sculpteurs. C'est parce qu'ils ont peut-être précipité sur les rocs aigus au fond du Barâtre un petit bossu qui était Ésope, ou le bébé aveugle qui eut chanté à travers les siècles les dieux et la gloire de leur patrie. Et parmi les trop pâles petites filles qui tournoyèrent un instant, frêles papillons blancs dans la nuit verticale du gouffre, il y avait peut-être la mère ou l'aïeul de leur Phidias, de leur Sophocle, de leur Aristote ou de leur Platon, car toute vie est le secret de Dieu, et nul ne sait qui porte le message, ni les passants, ni le messager.
Vous venez d'entendre Jacqueline Pagnol lire Les secrets de Dieu, un texte de Marcel Pagnol dans l'émission Bonne nouvelle grand comédien de Patrice Galbaud le 18 août 1971 sur France Culture.